VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. En accord avec son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, le président français Emmanuel Macron a annoncé le report au début de l'année 2020 d'un sommet avec les leaders des 5 pays du G5 Sahel, initialement prévu le 16 décembre. Les précisions de Michel Joseph.
Le président français devait réunir lundi prochain à Pau les dirigeants du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, alors que Paris réexamine les modalités de son intervention au Sahel après le décès de 13 soldats français dans une collision d'hélicoptères au Mali. Le sommet a été reporté en raison de l'attaque mardi contre un camp militaire au Niger, a annoncé l'Élysée. L'attaque de mardi contre un camp militaire au Niger, non loin de la frontière avec le Mali, a fait 71 morts parmi les soldats, l'attaque djihadiste la plus meurtrière dans le pays. Monsieur Macron avait annoncé le 4 décembre qu'il avait convié les présidents sahéliens à cette réunion pour qu'ils clarifient leur position sur la présence militaire française au Sahel, de plus en plus contestée par leurs opinions publiques. Il avait souligné qu'il attendait d'eux qu'ils assument publiquement le fait que les soldats français sont au Sahel à la demande des pays concernés et non pas pour des visées néocoloniales. L'Élysée a précisé mercredi que toutes les options étaient sur la table, y compris un retrait des 4500 hommes des troupes françaises de la force Barkhane qui depuis 4 ans luttent contre les groupes djihadistes au Sahel.
Toujours concernant la situation au Sahel, ouverture samedi au Mali d'un dialogue politique. Ce dialogue national qui se veut inclusif va durer du 14 au 22 décembre. Et les consultations auront lieu dans un climat de pessimisme face à l'évolution de la situation au Mali et au Sahel. Le dialogue se tiendra sans les principaux opposants du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le leader d'opposition Soumaïla Cissé, arrivé second à la présidentielle de 2018, a décliné l'invitation. Et les anciens premiers ministres Modibo Sidibé et Cheikh Modibo Diarra, anciens candidats à la présidentielle eux aussi, tournent également le dos. Afrique centrale maintenant. La CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a annoncé mercredi l'ouverture d'un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés de 2 ex-chefs de milice de la République centrafricaine, dont un ancien haut responsable du football africain. Les précisions avec Irénée Herman Numbo.
Patrice Edouard Ngaïsonan, ancien ministre des Sports, et Alfred Yekatom, alias Rambo, sont accusés de crimes commis pendant la guerre civile entre 2013 et 2014 en Centrafrique. Les juges de la CPI ont confirmé partiellement les charges portées par la procureure Fatou Bensouda à l'encontre des deux hommes, renvoyant l'affaire en procès. Les magistrats ont estimé qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsonan sont responsables de crimes tels que le meurtre, le viol, la torture, le transfert forcé de population, la persécution et autres actes inhumains. Ils ont par contre refusé de confirmer les charges restantes qui, selon eux, ne sont pas étayées par des éléments de preuve sans donner plus de détails. Ngaïsonan, 52 ans, a été arrêté en France en décembre 2018 avant d'être transféré à La Haye. Il était le président de la Fédération centrafricaine de football. Yekatom, 44 ans, a été remis à la CPI en novembre 2018. Ce député aurait, selon la Cour, commandé environ 3000 combattants anti-Balaka.
La lutte contre la corruption en Angola maintenant. Le fils de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, a dénoncé un règlement de compte politique et nié toute tentative de détournement de fonds au troisième jour de son procès mercredi devant un tribunal de Luanda. Si je n'étais pas le fils de l'ancien président de la République, je ne serais pas ici pour être jugé par vous, a déclaré José Filomeno dos Santos au juge qui préside les débats du tribunal suprême angolais dans la capitale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les femmes congolaises se plaignent du mauvais traitement dont elles sont victimes pendant les rites de veuvage. Les veuves exigent maintenant que les autorités mettent fin à cette situation en interdisant dans le prochain code de la famille les pratiques témoignant de manque de respect à leur égard. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Les pleurs pendant le décès de l'époux ne symbolisent pas seulement la douleur de la veuve, mais également et surtout la crainte de vivre le pire moment de sa vie. Le veuvage, un ensemble de rites et de dures épreuves que redoute la femme congolaise. Veuve Anne-Marie Paul Bakan.
On barricade l'autre là à la chambre. Tu peux pas te laver, tu peux pas manger à l'heure où tu as faim. Et puis pour l'inhumation de ton mari, on te demande 400 000, 1 500 000, 2 000 même. Surtout si tu travailles. Vraiment, c'est malheureux. Oui, on dénonce ça. Mais c'est la famille, la belle famille qui prend cette décision. Parce que là maintenant, le mari est mort.
Très souvent, après le deuil du conjoint, la femme est mise dehors avec ses enfants. Une double douleur que dénonce la veuve Berthe Makita.
On te met dehors avec les enfants, alors qu'est-ce qui va devenir cette famille-là? Dans la rue, c'est pourquoi les enfants qui sont délaissés, on les retrouve dans les rues, ils deviennent des barbares, des bandits, des voleurs, des braqueurs, des bébés noirs.
Ces épreuves relevant de la tradition sont malheureusement appliquées avec vigueur par les femmes contre les femmes. Veuve Madeleine Miankaba.
Oui, par les femmes, mais nous serons là à conscientiser les femmes, surtout nous et les autres aussi qui viennent, nos filles aussi, qui seront plus tard aussi des veuves, elles aussi. Donc on sera là pour les conscientiser, pour arrêter tout ça.
Pourquoi, dans une société moderne comme le Congo, le poids de la tradition contraint encore les femmes à vivre un cauchemar qui remonterait des années 50? Professeur Auguste Miabeto, spécialiste des langues et traditions congolaises à l'université Marie Ngouabi de Brazzaville.
Il y a une décantation des traditions qui doit se faire. Il y a des choses du passé qu'on ne peut plus récupérer aujourd'hui. Les valeurs vivantes peuvent demeurer, mais les antivaleurs, il faut les écarter. Les antivaleurs font très mal à la veuve. Il y a des traditions féminines qui sont là. La veuve qui est enfermée et qui est agressée par les belles-sœurs. Les hommes sont dehors et ils n'y sont pour rien. Bon, mais il faut éduquer la femme.
Pour aider les femmes à faire entendre leur voix, le QDOC, une ONG des droits de l'homme, a initié une démarche envers les autorités pour que le futur code de la famille abolisse clairement ces traitements inhumains et dégradants. Gaspard Mianantima, président du QDOC.
L'objectif visé, c'est de permettre à la veuve, un, qu'elle connaisse ses droits et qu'elle sache les défendre. Deuxièmement, elle doit s'investir à sortir la veuve congolaise de ce que nous appelons esclavage.
En attendant, les pleurs qui s'élèvent dans les veillées mortuaires au Congo traduiront toujours l'amertume d'une veuve maltraitée par sa belle famille. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Élection en Algérie, début ce jeudi du scrutin devant élire le successeur du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Vote massivement rejeté par le mouvement populaire de contestation du régime qui agite le pays. Selon l'agence de presse officielle APS, les quelques 61 000 bureaux de vote ont ouvert comme prévu à 7h temps universel, 8h heure locale. Aucun sondage n'a été publié, mais les observateurs s'attendent à une abstention très importante alors que la contestation populaire dénonce un vote visant à permettre au régime de se maintenir au pouvoir. Élections au Royaume-Uni également, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce jeudi matin pour les élections générales anticipées, cruciales pour la sortie du pays de l'Union européenne, promise au 31 janvier par le Premier ministre conservateur sortant Boris Johnson. Le chef du gouvernement et son adversaire travailliste Jeremy Corbyn ont joué mercredi leur dernière carte pour emporter un scrutin qui s'annonce très serré selon les derniers sondages. Jean-Roger Bion.
Boris Johnson a convoqué ces élections avec l'espoir d'obtenir une majorité absolue, lui permettant de tourner définitivement la page du Brexit qui divise profondément son pays depuis le référendum de 2016. Arrivé au pouvoir fin juillet, avec la promesse de sortir son pays de l'Union européenne, l'ancien maire de Londres a essayé de rallier les régions traditionnellement acquises au travaillisme qui sont favorables au Brexit. Son adversaire Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste, l'a accusé de faire des promesses qui se transforment en mirage le lendemain. À en croire le dernier sondage de la campagne publié par l'Institut YouGov, le parti conservateur serait en tête des intentions de vote avec 339 sièges sur 650. Selon l'Institut, un tel résultat serait la meilleure performance des conservateurs depuis 1987 sous Margaret Thatcher. Mais la marge d'erreur, l'impact d'un éventuel vote utile et la récente tendance en faveur du Labour Party peuvent encore conduire à un Parlement sans majorité, donc une prolongation de la crise.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.